Pendant ce temps, chez Renault...
On y va ?
Une seconde, je mets ma playlist.
Et là, c'est bon ?
Et oh, je mets ma ceinture, et toi aussi d'ailleurs.
Ah, oui.
Allez, on y va. Vous êtes prête à partir ? Votre Renault aussi. Avec les prêts à partir, 4 jarres série limite et graphite, suréquipés avec système de navigation connecté disponible immédiatement, est à partir de 249 euros par mois avec EasyPack. Entretien et garantie inclus pendant 4 ans. Pour 4 jarres graphite, énergie TCE 130 jusqu'au 30 novembre, LLD 49 mois avec apport de 2500 euros si accordiaque, voir Renault.fr.
Europe 1, circuit court. Un autre regard sur l'économie.
Au circuit court, c'est tous les jours jusqu'à 14h sur Europe 1. Une émission également à suivre en vidéo sur Europe1.fr avec Anne Le Gall et Maxime Switek.
Et bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Maxime.
Quel est le programme du jour ?
Eh bien aujourd'hui, nous allons tenter une expérience. Nous allons complètement changer les règles de vie d'une entreprise classique. Fini la pointeuse, fini les horaires fixes, fini les chefs qui ordonnent et les salariés qui exécutent. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'entreprise libérée. Un concept que nous allons explorer jusqu'à 14h.
Deux autres rendez-vous dans Circuit Court, le portrait avec vous, Cyril Ariel, tout à l'heure. Qui a décidé de changer le monde aujourd'hui ?
Bonjour Maxime, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un entrepreneur qui veut faire avancer un navire grâce aux déchets plastiques, Simon Bernard.
Et puis le coup de main tout à l'heure à une association qui lutte contre la malnutrition dans le monde, mais de manière, vous le verrez, très originale.
Et vous le savez, vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos messages sur le site europe1.fr ou encore sur Twitter avec le hashtag E1CC. Soyez les bienvenus dans Circuit Court.
Bonjour Pascal Demurger.
Bonjour.
Merci à vous d'être là, d'être l'invité de ce 39e numéro de Circuit Court. Vous êtes le PDG d'une entreprise que tous les Français connaissent. Vous êtes le PDG de la Maïf. Vous assurez combien de Français ?
Environ 3 millions de ménages, donc 7-8 millions de personnes.
La Maïf est donc ce qu'on appelle une entreprise libérée. Vous allez nous expliquer ce que ça change dans la vie quotidienne de vos salariés.
Mais avant cela, je vous présente Isabelle Saporta, juste en face de vous. Donc elle va vous écouter, elle vous posera sans doute des questions que nous avons oublié de vous poser. Et elle vous dira aussi si votre expérience d'entreprise libérée l'a convaincue.
Ah, j'espère.
Pascal Demurger, on va essayer de comprendre ce qui fait que la Maïf n'est pas une société tout à fait comme les autres. Mais je note une chose, c'est que toute entreprise libérée que soit la Maïf, elle a besoin d'un PDG, vous êtes le patron.
Alors oui, ça ne remet pas en cause le rôle du dirigeant, des dirigeants, ni d'ailleurs le rôle des managers. En revanche, ça transforme complètement ce rôle-là.
Alors ça transforme le rôle, vous êtes le patron, mais vous avez voulu remettre en cause les schémas hiérarchiques classiques. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous gênait ?
Les schémas classiques, on les connaît finalement. Lorsque l'entreprise veut obtenir plus de performance, lorsque la direction veut plus de performance, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle exerce plus de pression, elle met en place plus de contrôle, plus de process. Moi-même, j'ai commencé par diriger la Maïf selon ce mode extrêmement classique. Aujourd'hui, ma conviction, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche plus, les gens ne s'y retrouvent pas d'abord, et je crois que ça n'est pas efficace en réalité pour l'entreprise.
Mais qu'est-ce que vous avez changé concrètement ? On est d'accord, il y a toujours des chefs. Des managers.
On est d'accord, il y a toujours des managers. Qu'est-ce que l'on recherche ? Si on a des collaborateurs, des salariés qui se sentent bien dans leur travail, qui même s'épanouissent dans leur travail, n'ayons pas peur du mot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils seront plus motivés, qu'ils seront sans doute plus engagés. Si on a des salariés qui ont plus de liberté dans leur travail, plus de marge de manœuvre, ça veut dire qu'ils pourront prendre plus d'initiatives, l'entreprise sera beaucoup plus innovante. Si on a des salariés qui sont, qui se sentent mieux dans leur entreprise, qui sont en phase avec la culture d'entreprise, avec ses valeurs, avec sa stratégie même, avec l'équipe dans laquelle il travaille, il y a des chances que ces salariés soient de meilleurs ambassadeurs de leur entreprise et que lorsqu'ils sont en face d'un client, d'un sociétaire pour la Maïf, au téléphone ou en agence, vraisemblablement qu'ils auront une relation bien meilleure, beaucoup plus empathique avec eux.
Vous parlez de liberté et non pas d'autonomie, la nuance est importante ?
Je parle plutôt d'autonomie en l'occurrence. Alors c'est vrai qu'il y a ce terme d'entreprise libérée qui est souvent utilisé, dans lequel je ne me retrouve pas complètement. Moi, je préfère à tout prendre quelque chose comme entreprise aspirationnelle, par exemple. C'est-à-dire vraiment l'entreprise qui crée une dynamique, qui crée un élan, qui donne envie en réalité. Qui donne envie d'ailleurs à ses salariés, mais aussi, pourquoi pas, à ses clients.
Mais pour l'instant, on voit bien le but, on ne voit pas encore les moyens concrètement. Dans le rôle des managers, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qu'ils ne font plus aujourd'hui qu'ils faisaient avant ? Est-ce qu'ils donnent toujours des ordres ?
Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on essaye de passer d'un management qui repose sur l'autorité, sur la hiérarchie, sur le contrôle également, à un management qui repose sur l'envie, sur la confiance et sur l'envie. C'est-à-dire qu'au lieu de faire en sorte que les collaborateurs, les salariés, les équipes exécutent quelque chose parce qu'ils y sont contraints, parce qu'ils y sont obligés, avec un couple sanction-récompense selon qu'ils le font bien ou pas, là on va être dans une disposition d'esprit où on essaye de donner envie aux gens. Donner envie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord leur donner le sens. Souvent, les gens ne comprennent pas la stratégie de l'entreprise parce qu'on ne la leur explique pas, tout simplement. Ne comprennent pas exactement quel est le sens de ce qu'ils font, de ce qui est leur travail. On va ensuite leur donner les moyens. On va les accompagner. On va leur laisser des marges de manœuvre. On va leur laisser des responsabilités beaucoup plus importantes, beaucoup plus d'autonomie. Une fois que quelqu'un a le sens, qu'il partage ce sens, qu'il est à l'aise avec les objectifs de l'entreprise, avec sa culture également. Et si en plus il a les marges de manœuvre et l'autonomie nécessaires, évidemment qu'il va faire ce qu'il a à faire beaucoup mieux que si on l'y contraint.
Mais encore un exemple concret, il n'y a plus de pointeuse à la Maïf ?
Alors, exemple concret, on vient de signer très récemment, il y a quelques semaines, un accord important sur ce qu'on appelle l'organisation du temps de travail. C'est important dans une entreprise, ça gère le rythme de travail, la manière dont on s'organise, etc.
L'horaire est fixe, mais on vient...
Alors non, l'horaire n'est pas fixe en réalité.
Le volume horaire, pardon.
Le volume horaire est fixe. C'est-à-dire que le salarié doit à l'entreprise, et ça c'est bien normal, c'est la réciprocité, doit à l'entreprise un volume horaire, 1540 heures par an, peu importe. En revanche, dans ce cadre-là, l'entreprise, bien sûr, va s'organiser pour rendre le meilleur service à ses assurés, à ses sociétaires, et donc fixe le nombre de personnes qu'il est nécessaire, par exemple, pour répondre au téléphone à un moment donné. Sur cette base-là, les salariés s'organisent entre eux pour décider librement s'ils seront là à tel moment, là à tel autre. Chacun, en fonction de ses contraintes, réagit tout simplement comme un adulte responsable, quoi.
Alors, expliquez-moi, ça sert à quoi d'avoir plus d'autonomie, de créativité quand on vend des assurances ? Parce que le contrat, lui, il est très carré.
Ça change juste tout en réalité dans la relation avec le sociétaire. Vous savez, un sociétaire qui téléphone. Souvent, d'abord, il va téléphoner parce qu'il a eu un accident, un dégât des eaux, un sinistre quelconque. Donc, il y a souvent une charge émotionnelle qui est assez forte. Parfois même, la situation est juste dramatique. Ça veut dire d'abord qu'il faut que nos collaborateurs, au téléphone ou en agence, aient une capacité d'empathie, de proximité, de compréhension qui soit extrêmement forte. La première condition pour ça, c'est déjà qu'ils soient bien eux-mêmes. S'ils sont épanouis dans leur travail, s'ils sont très, très en phase avec l'entreprise, ils seront beaucoup plus en empathie, ils ne seront pas en résistance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fonction de la situation, le degré de stress, d'émotion, voire de détresse de l'assuré en phase va être plus ou moins important. En fonction de la situation, le salarié va pouvoir lui accorder plus ou moins de temps. Sur un plateau téléphonique classique, sur un plateau téléphonique classique, le management, il est relativement simple, c'est au chronomètre. C'est-à-dire qu'il y a une durée moyenne, maximale des appels et on ne doit pas dépasser. Dans une entreprise de ce type, nous, ce que l'on essaye de faire, c'est exactement le contraire. On accorde aux clients qui téléphonent le temps nécessaire pour répondre complètement. Et ça, c'est le salarié qui le sent, c'est lui qui est là.
Mais pardon Pascal de Manger, mais ça a un coût pour une entreprise ?
Alors ça, bien sûr, ça s'appelle
plus de temps avec un sociétaire au téléphone, ça a un coût.
Vous avez complètement raison, ça s'appelle un investissement. Et cet investissement, il y a un retour, et même très largement, de deux manières. D'abord, on se rend compte que, tout simplement, les salariés sont des adultes responsables. Ils se régulent eux-mêmes. C'est pas parce qu'on ne les chronomètre pas, c'est pas parce qu'on ne les surveille pas qu'ils font n'importe quoi. Ils vont effectivement se réguler et accorder le temps nécessaire. Et parfois, ça peut être moins que la moyenne, et parfois, ça peut être plus. Et puis, surtout, le second retour, c'est que dans une entreprise comme la Maïf, et là, les chiffres sont là pour le démontrer, on a ce qu'on appelle le taux de fidélité le plus important de très loin du marché. C'est-à-dire que les assurés à la Maïf restent à la Maïf. Ça veut dire que c'est autant de dépenses en moins qui serviraient à d'autres pour aller chercher de nouveaux clients. Le coût d'acquisition d'un client est très élevé. On n'a pas besoin de le faire. Il vaut mieux rendre le meilleur service possible et conserver ses clients plutôt que d'aller en chercher en permanence.
Europe 1, circuit court.
Avec Maxime Switek et Anne Le Gall.
Et nous nous intéressons aujourd'hui à ces entreprises libérées qui ont décidé de changer complètement les règles du management classique.
Et avec nous, pour en parler, Pascal Demurger, PDG de la Maïf, donc en studio, et à vos côtés, le pape. Bonjour Isaac Goetz, vous
ça vous agace
professeur.
Qu'on dise le pape.
Voilà,
non,
expliquez
écoutez,
que vous faites l'amour quand on dit le pape.
Quand on s'appelle Isaac, c'est difficile d'être le pape, ni évangélisé, donc il faut quand même assumer. Voilà. Mais vos questions alors,
on va le rappeler, vous êtes professeur effectivement à l'École supérieure de commerce de Paris, le SCP, et vous êtes régulièrement...
SCP Europe.
SCP Europe,
pas européen, Europe.
Non, Europe, mais c'est pas mal aussi. Vous êtes, on le disait, l'un de ceux qui ont théorisé ce concept de l'entreprise libérée. Je crois d'ailleurs que vous avez travaillé avec Pascal Demurger pour orienter un peu la Maïf dans cette démarche-là.
Non, je ne suis pas un consultant, mais on se rencontre avec Pascal, on échange, on prend un verre, on discute, on philosophe.
Bon, vous avez discuté, échangé, pas travaillé. Ouais. Au moins, c'est dit. Ça fait longtemps qu'il existe des entreprises libérées.
Oui, la première depuis 1958. Donc bientôt 60 ans, elle s'appelle WL Gore, donc fabrique Gore-Tex et plus de 1000 d'autres produits innovants. Ouais.
Ouais, Gore-Tex, qui fabrique le Gore-Tex. Qu'est-ce que c'est pour vous la meilleure définition de l'entreprise libérée?
C'est pas la meilleure, c'est la mienne que je vous donne. Hein, donc, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais l'entreprise libérée, c'est une organisation dans laquelle la majorité des salariés jouissent à la fois de la liberté et de la responsabilité complète d'entreprendre toute action qu'eux-mêmes, pas leurs supérieurs, ni les procédures, décident comme les meilleures pour la vision de l'entreprise. Voilà.
C'est la liberté cadrée.
Liberté ordonnée, si vous voulez, parce que sans la responsabilité, la liberté, c'est l'anarchie. Et d'ailleurs, à l'inverse aussi, hein, vous savez, il y a beaucoup de responsables dans toutes les entreprises, mais ils ont zéro liberté. Ni ils décident comment ils procèdent, ni avec qui, ni avec quelle matière première, ni quand ils doivent livrer. Mais si ça ne marche pas, ils disent « c'est toi qui es responsable ». Donc c'est une farce. Une véritable farce.
Mais ça veut dire que le métier de manager change. Il n'est plus là pour ordonner. Qu'est-ce qu'il fait? Il impulse?
Alors, il ordonne quelque chose, mais c'est intéressant. Vous avez tout à fait raison, Anne. Il ordonne, il ne donne pas des ordres, mais il ordonne l'environnement. Il organise l'environnement dans lequel les gens travaillent. Et donc, il est au service de l'équipe. Pour donner juste un exemple concret, plutôt que le matin, on fait une réunion d'équipe, vous voyez, le matin de 10 minutes, voilà, et vous faites ça, et puis là, je repasse régulièrement de voir si c'est fait. Je pose la question, voilà, ce qu'on cherche à accomplir aujourd'hui, comment proposez-vous de s'organiser et de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour donner le meilleur de vous-même en équipe, et je suis à votre service. Si les gars, ils disent, bon, on s'est organisé, c'est bon, je peux dire même que c'est parti, je pars à la pêche. Mais normalement, il a quand même un leader des choses à faire parce que, bon, les gens, ils produisent, ils répondent au téléphone, mais il y en a des choses en permanence.
On a entendu le patron de la Maïf, Pascal Demurger, juste avant vous. Est-ce que ce qu'il a raconté correspond parfaitement à ce que vous estimez être une entreprise libérée?
Je vais vous faire un scoop, carrément coming out. Donc même si on se rencontre avec Pascal, alors il n'y a pas un coming out monstrueux. Hein, on se rencontre avec Pascal régulièrement et effectivement, on prend parfois un verre, une discute after work. Je ne suis pas allé au sein de leur entreprise.
D'accord.
Donc je ne peux pas me prononcer parce que je suis un chercheur et ma méthode est ethnographique. Donc à ce jour, j'ai observé une centaine, mais je ne suis pas encore allé chez Pascal. En revanche, il y en a, mais... collaborateur, si on peut le dire ça comme ça, membre de ce réseau des gens qui sont passionnés par l'entreprise libérée, notamment tu as reçu Pierre Nassif, qui ont parti et qui ont vu comment ça fonctionne et donc ils m'ont rapporté un certain nombre de choses qui me paraît que c'est cohérent. Maintenant, j'enfourche parce que c'est intéressant qu'il y en a beaucoup d'entreprises qui disent « on est des entreprises libérées ». Et vous savez, moi, je me félicite. Aujourd'hui, on est à la troisième phase. Par rapport à toute innovation, entreprise libérée, c'est une innovation sociale. Il y a trois phases. Première phase, les gens ils disent, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Alors, tu dis, non, mais j'ai vu 10 ou 15 ou 20, non, ça n'existe pas. Deuxième, c'est dangereux. Alors là, ils vont brûler, etc. Ils vont voler, ils vont faire n'importe quoi, comme on sait qu'on ne les surveille pas, le contrôle. Et la troisième, ça, c'est la plus dangereuse. C'est, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Et aujourd'hui, tu as des entreprises qui disent, mais... on est une entreprise libérée. Alors, je pense qu'effectivement, c'est une bonne question. Il y en a certains peut-être qui annoncent, mais qui ne le sont pas. Mais moi, je ne peux constater que ce que j'ai vu de mes propres yeux, parce qu'il faut voir. Il faut voir dans le regard des gens, dans le sourire des gens, dans la façon dont ils ont envie de venir au travail et pas le quitter, ce qui est dangereux pour l'inspection de travail, attention. Voilà. Parce que les gens, ils aucun disent, vous êtes passionné, vous aimez, vous voulez pas partir. Donc il faut, c'est un job de leader de cette entreprise, il est terrible, il faut chasser les gens du boulot, vous imaginez ça, hein. Voilà. Mais globalement, effectivement, vous voyez ça, mais pour ça, il faut observer. Il faut pas théoriser, il faut pas modéliser, il faut pas écrire des trucs abstraits, il faut y aller le voir.
Alors, il faut observer, à part la Maïf, donc à quoi ressemble justement une entreprise libérée au quotidien? Notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon, est allé faire son curieux du côté d'une autre entreprise, la société Biocop Scarabée à Rennes. Bonjour François.
Bonjour à tous.
Cette entreprise Scarabée s'est convertie il y a 3 ans à l'holacratie, comme ils disent. Ça veut dire quoi exactement?
Écoutez, c'est assez simple. Vous voyez le système pyramidal avec un grand chef tout en haut et plein de petits chefs quand on entame la descente. Eh bien, l'holacratie, c'est juste l'inverse de ça. C'est un système d'organisation basé sur l'autorité partagée par tous. Et ceux qui en parlent le mieux sont ceux qui le vivent au quotidien, comme Mehdi qui s'occupe du rayon frais dans un magasin bio.
Il n'y a pas de responsable clairement nommé. On est tous représentés par des cercles.
Et quand il y a le feu au magasin, qui dit je vais faire ci ou ça?
Eh bien, il y a des rôles qui ont été créés pour activer des leviers à des moments précis. On a des processus qui sont en place pour pallier à tout ce genre d'inconvenus. C'est très cadré. C'est en constante évolution. On est constamment, réunion après réunion, on fait avancer notre, entre guillemets, règlement intérieur. On en débat, c'est collégial. Tout le monde a sa voix au chapitre. N'importe qui peut interpeller n'importe qui.
Le plus génial dans le système, c'est quoi, à vos yeux?
L'humain au centre de tout. On fait dans l'humain et le but est là, quoi.
Alors, on entend bien ce témoignage, François. Mes questions, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu grande pagaille chez Scarabée avec éventuellement des répercussions, dans le mauvais sens, des répercussions économiques?
Eh bien, pas du tout. Le bilan au bout de 3 ans, c'est un chiffre d'affaires qui continue de grimper, 37 millions d'euros et dorénavant 220 salariés. Il n'était qu'une centaine il y a 3 ans. L'holacratie, à tout le moins, n'a pas constitué un frein au développement de l'entreprise. Et sur le plan humain, c'est top, dixit Hugo Mouraret, chargé du web marketing.
On a remarqué vraiment une liberté, les gens arrivent de plus en plus facilement à dire « je ne suis pas d'accord, j'aimerais que ça change, pour moi c'est pas comme ça que ça fonctionne ». Et en fait, à partir du moment où on ouvre cet espace-là, ça devient extrêmement créateur, parce que ça permet juste de dire « bah oui, il y a un truc qui va pas, comment l'entreprise s'en empare pour faire avancer ».
Qu'est-ce que ça vous apporte le plus ?
La possibilité de dire non à son ancien boss, c'est absolument créateur. Pas pour le plaisir de le dire non, mais pour la possibilité d'être reconnu de par notre expertise. On nous affilie à un rôle, on nous dit « vous êtes la meilleure personne au meilleur endroit pour faire ce truc-là ». Donc ça vous donne une vraie légitimité. On a l'autorité, le droit de prendre tout un tas de projets que nous on juge bons, même si ça va à l'encontre de ce que pouvait penser notre ancien manager. Donc en termes de créativité, c'est assez jouissif.
Voilà, tout va plus vite ici pour les nouveaux projets comme pour les prises de décision. Paradoxalement, l'entreprise sans chef a manifestement boosté le Scarabée.
Reportage de François Coulon. Merci François. Isaac Gates, convaincu ou pas par Scarabée?
Alors écoutez, de nouveau, je ne suis pas allé. Mmh. Mais bien sûr, beaucoup d'auditeurs connaissent peut-être, ont entendu parler d'holacratie. C'est un modèle. C'est un modèle. Or, pour l'entreprise libérée, il n'y a pas de modèle. Mmh. Il n'y a aucun modèle. Chaque entreprise doit se transformer en articulant cette philosophie. C'est une philosophie autour de, vous rappeler, liberté et responsabilité, dans l'héritage humain et culturel spécifique. Et quand vous prenez des entreprises comme Michelin, Airbus, etc., chaque usine est différente. Donc, il faut construire quelque chose qui est unique pour les gens et faire ça avec eux. Pour moi, en tout cas, une des difficultés, mais je ne suis pas le seul, hein, dans les réseaux sociaux, si vous tapez holacratie Zappos, vous allez voir qu'est-ce que fait la mise en place de ça de manière assez, j'aurais dit, homogène partout. Et donc, ça fait pas mal de remous, ça fait pas mal des problèmes.
Bon, en tout cas, les salariés qu'on a entendus, ils ont les remous.
Alors, ici, probablement, peut-être, ça se passe bien. Ça dépend encore une fois comment c'est amené. Et il peut y avoir des cas dans lesquels, effectivement, on l'a bien fait. Mais globalement, il n'y a pas de modèle. Il n'y a aucun modèle, ni des consultants. Je peux expliquer pourquoi. Il n'y a pas de conseil dans la libération d'entreprise. C'est impossible.
Europe 1, circuit court.
Avec Maxime Switek et Anne Le Gall.
Une émission consacrée aujourd'hui aux entreprises libérées qui ont décidé d'envoyer valser les vieux schémas hiérarchiques classiques. Nos invités pour en parler, Pascal Demurger, PDG de la Maïf, qui est devenue une entreprise libérée, et Isaac Goetz, l'un de ceux qui ont théorisé ce concept en France. Vous êtes professeur à l'École supérieure de commerce de Paris. Alors Isabelle Saporta, nos invités vous ont-ils convaincu?
Ben, écoutez, j'ai rien contre les invités, notamment rien contre Pascal Dumurger et son entreprise Amaïf, dont on ne peut que se réjouir que ce soit une belle entreprise, qu'elle fonctionne bien, que les sociétaires soient heureux. Mais alors moi, j'avoue que j'adore un petit peu cette espèce de conte de fées moderne que vous nous vendez là, aujourd'hui. Alors j'ai bien vu que vous vouliez pas, Pascal Dumurger, de l'entreprise libérée, mais aspirationnelle. Je sais pas si c'est pas encore un petit peu au-dessus dans la novlangue. Bon, voilà. Enfin, bon, d'accord. Donc, moi, j'ai entendu aussi Zagat. Écoutez, moi, je suis un petit peu gênée par ce conte de fées, même si je le trouve assez joli à entendre. Surtout dans une période où on a ce chômage de masse, où on a une augmentation de 160% des CDD de moins d'un mois en 6 ans, où on a 25% de nos jeunes qui sont au chômage, où on a 45% de nos ouvriers qui se sentent déclassés. On est à 17% chez les pompiers et les policiers, un 4 sur 5. Et donc, vous nous dites, bon ben tranquillou, la solution pour tous ces problèmes, qui sont quand même abyssaux, c'est de se libérer, délivrer, comme dirait la Reine des Neiges, et tout va bien se passer. Bon,
moi, qu'est-ce j'ai du mal à le dire. Là, la Reine des Neiges.
Parce que moi, ça fait une semaine que je vois le titre et que j'ai libéré, délivré dans la tête à chaque fois, et donc il fallait que j'en fasse profiter à nos auditeurs, il n'y a
c'est
pas
gentil.
De raison qu'ils n'en profitent pas. Donc voilà, écoutez, moi, je suis un petit peu gênée, effectivement, avec toute cette coolitude. Et donc, vous disiez aussi, Isaac Gates, c'est le vrai problème, c'est que c'est tellement cool maintenant ces entreprises qu'on est obligé quasiment de chasser à coups de pied de l'entreprise. Les salariés le soir tellement ils sont heureux, tellement ils sont libérés. Alors écoutez, moi j'ai l'impression quand même quand je croise des jeunes aujourd'hui qui sont effectivement libérés d'avoir un emploi fixe, libérés pour certains effectivement livreurs à vélo d'avoir une protection sociale, libérés du coup aussi de pouvoir louer un appartement dans les grandes villes et donc il faut qu'ils aient quand même des parents qui soient derrière. Donc moi la question que je me pose, sachant que par exemple Mark Zuckerberg qui est le patron de Facebook et qui est quand même le patron d'une des plus grandes entreprises libérées qui soit sur Terre, gagne 37 millions chaque jour de plus, la question moi que je me pose c'est est-ce qu'on nous prendrait pas un petit peu pour des truffes quoi.
Pascal Demurger.
Alors moi je crois que la réponse elle est extrêmement simple.
Ah oui, Isaac Gates vous répondrez juste après. Allez-y Pascal Demurger.
La réponse est extrêmement simple, mais c'est ni Isaac Gates ni moi qui pouvons l'apporter. Ce sont les salariés qui sont concernés. Je peux vous donner 2-3 éléments là-dessus. Évidemment, à la Maïf, comme dans n'importe quelle entreprise d'une certaine taille, on a un certain nombre de baromètres que l'on suit pour mesurer un peu le climat social, on va dire. Hein. C'est le terme en général consacré. Depuis 3 ans, depuis qu'on s'est engagé dans ce mouvement, c'est incroyable comme les choses ont évolué. Mais à des niveaux que l'on n'imaginait même pas lorsqu'on a lancé tout ça.
À donner un exemple.
Par exemple...
Quel indicateur ?
Par exemple, un indicateur très, très précis, c'est le taux d'absentéisme. En général, quand le taux d'absentéisme augmente dans une entreprise, c'est que ça se passe pas très bien quand même. Le nôtre a chuté. On a perdu 2 points de taux d'absentéisme en quelques années. Des exemples très très ponctuels, des anecdotes. La semaine dernière, c'est pas très vieux. J'étais dans un couloir au siège de l'entreprise. Je croise une dame que je connaissais, mais sans plus. Et qui m'interpelle et qui me dit « Monsieur Demurger, j'ai quelque chose à vous dire. Normalement, je devrais être parti à la retraite depuis 6 mois. Vu la manière dont les choses se passent aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de partir. Et pour l'instant, je retarde mon départ. » Alors non, je dis pas qu'il reste le soir, etc. Mais simplement, oui, il témoigne par tous ces indicateurs, par tout un tas d'anecdotes, je pourrais vous en raconter 50, que oui, ils s'y retrouvent et ils sont beaucoup mieux dans ce cadre de travail.
Isaac Gates, qu'est-ce que vous répondez à Isabelle Saporta qui dit en gros que vous nous vendez le monde de oui-oui.
Alors Isabelle, d'abord on vend rien, il n'y a pas de conseil, on ne fait pas de conseil, on vend rien. Hein. Donc c'est les gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a absolument raison d'avoir souligné l'ampleur des problèmes qu'on a dans ce pays, en France, mais aussi dans d'autres pays. D'ailleurs, je peux vous dire que j'ai un jour reçu une lettre anonyme d'une salariée anonyme, écrite à la main, et a dit « Monsieur Gates, vous racontez exactement comme vous, hein, vous racontez tout ça, etc. Venez dans notre entreprise, vous allez voir la réalité, vous ne connaissez pas la réalité. » Effectivement, la réalité, il est dans beaucoup d'entreprises terribles, et dans le pays aussi. La question, qu'est-ce qu'on propose ? Moi, je vous dis qu'il y a une solution. Je ne dis pas la solution. Dans ces entreprises-là, il y a un taux d'absentéisme moindre, un taux de rétention plus grand. Les gens y viennent chaque jour avec l'envie. Ils sont beaucoup plus productifs. Ces entreprises recrutent, ces entreprises se développent, ces entreprises créent des emplois, ces entreprises diminuent le chômage, ces entreprises contribuent à la croissance en France. Ils sont pour l'instant des centaines. S'ils étaient seulement plusieurs dizaines de milliers, vous auriez vu le résultat. Est-ce qu'il faut arrêter ça ? Est-ce que vous avez une autre solution? Moi, je pense que c'est une des pistes et c'est pour ça que toutes ces entreprises-là gagnent les prix d'innovation sociale. C'est reconnu ce qu'ils font dans leur secteur, dans leur région, dans leur ville est incroyable. Et ce n'est pas que des entreprises, il y a des mairies, il y a des offices HLM, il y en a des caisses de sécurité sociale. Et c'est partout, partout où les gens travaillent. Si les gens seulement ont envie de se lever le matin et venir et donner le meilleur d'eux-mêmes, tout le monde est gagnant.
Tout le monde est gagnant et à l'heure de la touche musicale dans Circuit Court, voici un autre exemple de Big Boss qui ne donne plus d'ordre aujourd'hui. C'est le Big Boss chanté par Michel Jonas.
Big Boss, tu donnes plus d'ordre aujourd'hui. Big Boss, je vais seulement vous en donner un. Big Boss, ça c'est chic, allez-y. Big Boss, vous en aurez des boss si vous continuez à m'appeler.
Big Boss. Big Boss, Michel Jonas dans Circuit Court, Isaac Guedes, vous vouliez nous dire une chose encore. On n'a plus beaucoup
alors,
de temps.
Écoutez, la difficulté, parce qu'il faut en parler, c'est très très difficile de libérer les entreprises, et notamment le Big Boss, c'est le sujet. La chose la plus difficile, c'est le patron qui doit abandonner son ego, lâcher prise. C'est extrêmement difficile, 80% de ce... Je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais la majorité, si, c'est naturel. Et c'est extrêmement difficile. On comprend aussi pourquoi il n'y a pas de conseil dans ça. Ce n'est pas un consultant qui va vous aider à abandonner votre ego et lâcher prise. C'est un coach. Pour certains psys, pour transformer certains, on dit qu'il faut commencer par le grand-père. Mais normalement, c'est un coach.
Voilà. Un mot de conclusion aussi pour Pascal Demurger, PDG de la Maïf.
Bah, volontiers, moi je reviendrai bien sur ce que Isabelle Saporta disait. Ce n'est pas, la solution à tout. Et moi, je partage complètement votre avis. Moi, en tant que DG de la Maïf, je me sens responsable de deux choses, au fond. D'abord de la performance et donc de la pérennité de l'entreprise et des emplois, des 7000 emplois qui sont à l'intérieur. Et puis parce que quand on a un impact sur la manière dont les gens se sentent dans leur travail, dont ils s'épanouissent ou pas, ou dont éventuellement ils souffrent dans leur travail, bah je crois qu'on a une responsabilité. Je me sens responsable aussi d'une forme de bien-être des salariés qui travaillent chez moi.
Merci beaucoup à nos deux invités, Pascal Demurger, PDG de la Maïf, Isaac Guedes, professeur à l'École supérieure de commerce de Paris. Vous avez publié l'année dernière « La liberté, ça marche » aux éditions Flammarion.
Et ça sort l'entreprise libérée dans deux semaines chez Fayard.
Et ben voilà, merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans Circuit Court.
Europe 1, Circuit Court.
Avec Maxime Switek et Anne Le Gall.
Le portrait.
Le portrait d'une personnalité qui change le monde à son échelle. C'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Vous avez rencontré pour nous l'inventeur. Attention, l'inventeur du bateau qui carbure aux déchets plastiques. Il s'agit de Simon Bernard.
Tout est lancé et frêle. Simon Bernard, 26 ans, peut paraître timide au premier abord. Mais son audace d'entrepreneur est tout autre. Il est né au Havre et il est fasciné naturellement, comme il le dit, très tôt par la mer. Et donc c'est ensuite à Marseille qu'il se rend pour faire ses études pour rejoindre l'École nationale supérieure maritime durant 3 ans, puis direction Concarneau où il s'embarque sur un bateau, écoutez bien, pour faire un tour du monde pendant 1 an à la chasse holotechnologie, l'innovation système D, avec Corentin de Châtel-Perron,
qu'on a reçu la semaine dernière et qu'on connaît bien.
Et donc et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée de lancer son propre projet.
J'ai envie de naviguer, de monter un projet qui a du sens, pas juste d'aller pousser de l'eau sur un gros navire. Et donc, quand j'ai fait escale à Dakar avec le Nomade des Mers, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait du plastique partout et à côté de ça, des gens qui venaient nous voir pour nous demander s'ils pouvaient nous faire le plein d'essence, le plein d'eau douce. Donc, ils cherchaient des petits boulots pour survivre. C'est là qu'il y a eu le déclic. Je me suis dit, avec toutes les innovations qu'on est en train d'imaginer, il faut rendre le recyclage accessible et pouvoir faire vivre des gens grâce à cette matière première qui pollue.
Mais alors, quelle est son idée innovante?
Eh bien, un bateau autonome qui avance avec des déchets plastiques. C'est le projet fou de Plastic Odyssey qu'il a créé avec un ami passionné comme lui par le recyclage. Ils veulent tous deux démocratiser les solutions de recyclage réservées pour le moment aux industriels. Comment? Tout simplement avec un test grandeur nature, un tour du monde de 3 ans avec ce navire qui avancera donc grâce aux déchets plastiques. Ils seront collectés à chaque escale dans les villes côtières qui leur prépareront de gros sacs de déchets à l'avance, puis ils seront stockés sur le navire et enfin recyclés en diesel et en essence. Leur idée est de faire la promotion de solutions de recyclage accessibles à tous. On dit ça en open source, c'est-à-dire sans brevet et de façon à ce qu'ils soient duplicables pour le plus grand nombre. C'est un projet innovant que Simon Bernard a envie de porter très loin.
Ce qui me fait avancer, j'ai envie d'inspirer les gens. J'ai envie de pousser les gens à faire la même chose que moi et montrer que c'est possible et que avec un peu d'énergie, un peu de passion, bah, on arrive à faire changer les lignes et aller vers un monde meilleur.
Vous l'aurez compris, le moteur durable de Simon Bernard s'est prouvé que l'économie circulaire, ça fonctionne. Et pour ça, rendez-vous en 2020, année de la mise à l'eau de Plastique Odyssée.
Merci Cyrielle Ariel.
Europe 1, circuit court.
Le coup de main, c'est notre petite cerise sur le gâteau. Oui. À nous, tous les jours avant 14h, nous donnons un coup de main à une association, une entreprise, un projet. Bonjour Diane de Jouvencel.
Bonjour à toute l'équipe.
Merci d'être avec nous en direct. Vous dirigez l'association Antenna France. C'est une association qui lutte contre la malnutrition partout dans le monde, mais d'une manière assez originale. Comment est-ce que vous faites concrètement?
Eh bien, figurez-vous, quel est le point commun entre un grand hôtel parisien, une chaîne de restaurants éthiques, un sportif, un végétarien et un enfant malnutri?
Aucune idée. On a perdu la liaison, visiblement, avec Diane de Jouvencel. Est-ce que vous êtes toujours au téléphone avec nous? Nous avons perdu la liaison. On va essayer de rappeler Diane de Jouvencel, ou peut-être vu l'heure qu'il est.
Un petit peu raconter ce que fait Diane de Jouvencel.
Absolument, l'association Antenna France.
On ne le fera pas aussi bien qu'elle.
Ah, vous êtes là avec nous, Diane de Jouvencel?
On est là, je suis là. Donc, bon. Voilà. Donc, je disais qu'Antenna France est une association audacieuse, très engagée, qui a su innover dans le combat contre la malnutrition. Et en fait, il y a 15 ans, on a fait le choix de la production locale de spiruline avec un modèle d'entrepreneuriat social.
Donc la spiruline, il faut expliquer ce qu'est la spiruline.
Bien sûr, la spiruline, en fait, c'est une micro-algue aux atouts nutritifs exceptionnels et très riche en protéines, fer, vitamines, minéraux. Il lui faut de la chaleur, du soleil et très peu d'eau pour se développer. Et donc, elle s'adapte parfaitement aux conditions climatiques des pays du Sud où sévit la malnutrition.
Et donc votre idée, faire des populations que vous aidez, des producteurs de spiruline, des producteurs et des consommateurs.
Voilà, tout à fait. En fait, on intervient selon un modèle d'entrepreneuriat social qui est local et durable, qui se différencie de l'assistanat. C'est-à-dire qu'on a une double mission. On va une mission sociale où on distribue de la spiruline pour les enfants malnutris et on crée des emplois locaux. Mmh. Et une mission économique où on va vendre 2/3 de la spiruline qui est produite sur le marché local pour financer le fonctionnement de la ferme. Donc en fait, on fonctionne un peu comme un incubateur. On va identifier des partenaires locaux, on leur fait du transfert de technologie et de savoir-faire pour construire des fermes de spiruline, on apporte les financements et en contrepartie, nos partenaires consacrent 1/3 de la production à la malnutrition et on les accompagne jusqu'à l'autonomie des fermes.
Juste une question très courte, s'il vous plaît Diane de Jouvencel, comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider, ceux qui nous écoutent?
Alors avec vous, en fait, Antenna France peut changer la donne locale du développement et de la nutrition en faveur des enfants malnutris. Nous avons besoin de dons car nous voulons pérenniser nos actions et répondre aux demandes de plus en plus nombreuses de création de fermes qui émanent du pays du Sud. Donc vous allez sur le site d'Antenna France, antenna-france.org, vous cliquez sur le bouton rouge « Je m'engage, je donne ».
Merci. Et comme ça, à vous, je suis obligé de vous couper. Merci à vous, Diane de Jouvencel, d'avoir été en direct avec nous. On était ravis de vous donner un coup de main. Association donc Antenna, A-N-T-E-2-N-A.
Les initiatives qui font avancer, on partage tout cela avec vous dans Circuit Court. Et demain,
un grand coup de vent. Enfin, on l'espère. On va parler des éoliennes.